on a lancé donc la première semaine du mois d'août. Vous vous rappelez? La lecture du livre des Proverbes. D'accord? Donc c'était un proverbe par jour. Combien de proverbes y a-t-il dans le livre des Proverbes? 31. Donc, je vous ai encouragé à avoir donc un petit cahier à côté pour pouvoir justement donc pouvoir lire, souligner et surtout recevoir de la part du Seigneur donc ce qu'il voulait vous transmettre. Alors, donc, aujourd'hui c'est le vin. Alors, les proverbes. Grosso modo, on a dit que le mot sagesse, c'est un des mots clés du livre. Combien de fois on trouve le mot sagesse, vous l'appelez? 54 fois. Le mot sage, 62 fois. Le mot sage, bon, 3 fois. Chaque fois que vous lisez le mot sagesse, remplacez-le par le nom de Jésus. Car en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous lisons que Jésus-Christ a été fait sagesse pour nous, justice pour nous. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Lorsque vous lisez le livre de Proverbes, remplacez le mot sagesse ou sage par le nom de Christ, vous découvrirez dans ce livre une puissance merveilleuse. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est le véritable?
Jésus.
Qui est le véritable? Jésus. Alors, je vous ai donné donc le 6 octobre, on a vu un petit peu un parcours, on a parlé des objectifs, de l'objet, donc de pourquoi donc, le livre de Proverbes avait été écrit. On a parlé un petit peu du thème, de vérité spirituelle et morale dans une forme proverbiale désignée pour le peuple de Dieu. Je dis, je savais des paraboles pour pouvoir faire comprendre les vérités spirituelles. Ici, donc, les proverbes aussi, c'est des vérités spirituelles et morales dans cette forme désignée pour le peuple de Dieu. Rappelez-vous aussi en 2 Timothée, chapitre 3, 15 à 17, donc Paul parlait à Timothée, il disait, Timothée, rappelle-toi de qui tu as reçu les Saintes Écritures, qui t'ont rendu sage pour le salut. Combien de vous avez eu des parents qui vous ont commencé à instruire de votre jeune âge dans la sagesse de Dieu? Levez la main. Levez la main. Amen. C'est merveilleux. On a été donc instruits, et dans l'instruction, nous avons été rendus sages pour le salut. Alors, en lisant le livre de Proverbes, moi, j'ai pris quelques notes. Alors, on va voir les 20 premiers chapitres de Proverbes. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons voir quelques thèmes principaux que nous allons donc retenir. Et si quelqu'un vous demande, alors le livre de Proverbes, chapitre 4, il s'agit de quoi? Proverbes, chapitre 10, il s'agit de quoi? C'est très riche, très riche. Alors, chapitre 1, vous savez, les psaumes nous aident à prier et à adorer Dieu. Les proverbes nous disent comment vivre une fois après avoir prié. Amen. Nous avons dit que la sagesse, c'est l'application de la connaissance que nous avons reçue de la part de Dieu. Au chapitre 1, nous voyons que l'objectif, c'est de nous inspirer à avoir un grand respect, avoir une crainte de Dieu, à craindre ses jugements et avoir un amour ardent pour la sagesse et pour la vertu. Quel est le verset clé dont on a parlé donc le dimanche 6 août? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, Proverbes chapitre 1, vous voyez dans les premiers versets, Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, pour recevoir des leçons de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Vous saisissez le sens d'un proverbe ou d'une énigme des paroles des sages et de leur sentence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, chapitre 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a des avertissements. Pour vous rappeler que les proverbes ont été écrits pour instruire les jeunes, pour instruire les parents, pour éviter les mauvaises compagnies et pour prendre garde aux avertissements criés par la sagesse. Alors, chapitre 1, tout simplement, l'objectif. Est-ce que chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, chaque fois que nous ouvrons ce miroir qui est devant nous, est-ce que nous sommes ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu et ne pas des auditeurs oublieux? Car celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est comme un homme qui a regardé son visage dans un miroir, dans une glace, et il voit les imperfections qui sont reflétées, mais il oublie tel qu'il était, il s'en va. C'est pour ça que chaque matin, si vous allez dans notre salle de bain, à côté donc, du miroir, de mise à l'ami des versets, celui qui plonge son regard parfait dans la voie de la liberté, comme l'homme qui a regardé le miroir, et qui a réformé ses voies en voyant donc, ce que le Seigneur demandait de lui, ce que le Seigneur exigeait de lui. Alors, le miroir de la parole va donc nous aider à mener une vie qui va refléter de plus en plus Christ, qui est la sagesse. Christ. Au chapitre 2, quelle est l'attitude face à la sagesse? On doit garder ses préceptes, on doit rendre l'oreille attentive, on doit incliner son cœur, on doit appeler la sagesse, élever sa voix, chercher comme de l'argent et poursuivre comme un trésor. Chapitre 2 et verset 5 nous dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance des dieux. » À quel moment allons-nous comprendre la crainte de l'Éternel? Verset 1 du chapitre 2 « Si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Le chemin de la sagesse, on trouve au chapitre 2, est le chemin de la folie. Là, on va rentrer dans les contrastes. Bien sûr, on nous a parlé qu'à partir du chapitre 10, il y a beaucoup de contrastes. Mais tout de suite, on voit qu'il y a un avertissement concernant le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Le chemin de la sagesse, le chemin de la folie. Déjà au chapitre 1, il y a une mise en garde. Ne suis pas ceux qui vont te piéger. Hein? Ça, c'est vraiment important. Pour les enfants, pour nos enfants, on met en garde aux enfants, on leur dit, faites attention. Déjà, on pense au chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Heureux celui qui veille sur les personnes avec qui il traîne, avec qui il passe du temps. C'est tellement important. Regardez au chapitre 1. Mon fils, verset 10, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Au livre des Proverbes, vous allez trouver à plusieurs reprises un avertissement concernant la séduction du péché, la séduction de la chair, la séduction des mauvaises compagnies. Ils disent, s'ils te disent, viens avec nous, fais attention, ne te fais pas piéger. C'est l'avertissement. Donc, chapitre 2, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Mais alors, quelle attitude face à la sagesse? Chapitre 3, alors, nous connaissons ces versets par cœur depuis notre enfance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors ça, c'est vraiment un verset clé. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est tellement important de considérer Dieu dans tout ce que nous faisons. On cherche à connaître la volonté de Dieu, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Le psaume 37, verset 4 nous dit, Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Mais bien sûr, on ne dit pas, mais au fur et à mesure que tu fais de l'Éternel tes délices, tu ne peux pas désirer, tu ne peux que désirer ce que lui veut. Donc voilà, tu fais de lui tes délices et il va te donner le désir de ton cœur parce que cela va être donc façonné de telle manière que le désir de ton cœur seront ses désirs. On veut sa volonté dans notre vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aussi, nous voyons au chapitre verset 11 qu'il faut ne pas mépriser la correction de l'Éternel. Combien de vous avez été corrigé par Dieu? Levez la main, soyez honnête. Corrigé par Dieu. Ah, il y a ceux qui n'ont jamais été corrigés par Dieu. Vous êtes vivants? La Bible dit que si on n'est pas corrigé par Dieu, on n'est pas des vrais enfants. Hein? Alors, combien de vous avez été corrigés par Dieu? Alors, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Et l'homme qui a trouvé la sagesse, c'est l'homme qui possède l'intelligence. Ça me fait penser tout de suite à des références renvoient. Qu'est-ce qu'une référence renvoie? Quand je lis un verset, immédiatement je pense, Hébreux 12, 5 à 11. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. ne fouille pas la discipline. Laisse-toi corriger par le Seigneur. Parce que, on va le lire, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Donc Hébreux chapitre 12. Tout de suite, il nous fait penser à ce verset qui dit que la discipline est bonne pour nous. La discipline est bonne pour les enfants. Mais aussi dans notre vie, Dieu veut nous châtier afin que nous participions à sa sainteté. C'est ça le but recherché. C'est ça qu'on avait dit. Aujourd'hui, on veut donc interdire la fessée. Aujourd'hui, on veut interdire la discipline. Moi, j'étais à une école biblique en Danemark une fois. Et donc, on était là pendant 3 jours. Et on était là pour donner des enseignements, etc. Et l'après-midi, tout le monde était en ping-pong, à la pétanque, etc. Mais vous n'étudiez pas, mais il n'y a pas de bibliothèque. Ah, on ne peut pas imposer des devoirs. Mais même si on n'impose pas des devoirs, ils sont à l'école biblique, ils doivent avoir un désir et une soif de connaître le Seigneur. Mais alors tout l'après-midi, c'était passé dans les sports et ils étaient tranquilles. Et je disais, mais attendez, quand même, il y a une discipline à avoir. Quand même, il y a donc un ordre à avoir. Et bien sûr, la correction de l'Éternel va mettre de l'ordre dans notre vie et va nous enseigner qu'on peut tous participer à sa sainteté. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Verset 8, si vous êtes exempt du châtiment, alors vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus fort raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir de la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'avoir un sujet de tristesse et non de joie, bien sûr, quand il fait mal. Donc là où on a été donc discipliné, c'est un sujet de tristesse, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quel est le fruit de cette discipline dans notre vie? Car, on revient au chapitre 3, Dieu fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce à ceux qui se laissent instruire. Dieu fait grâce à ceux qui se laissent diriger. Dieu fait grâce à ceux qui se laissent corriger. Dieu fait grâce aux hommes. Et tout de suite, on pense à Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc immédiatement, on pense aussi à Romains chapitre 12, laisse-toi, verset 17, attiré par ce qui est humble. Donc pourquoi contester ce que Dieu dit s'il veut nous corriger, s'il veut mettre de l'ordre dans notre vie, s'il veut que nous on applique sa parole à notre vie et que surtout on garde notre cœur. Aussi dans le chapitre 3, nous avons donc 4 versets qui parlent justement donc des parties des corps. Hein. Verset, donc, non, ça c'est le chapitre 4, c'est le Donc, Dieu fait grâce aux hommes. Alors, est-ce que nous nous laissons attirer par ce que Dieu veut façonner en nous? Chapitre 4. Il y a des conseils pour les jeunes hommes. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Alors, en fait, dans ces conseils, il est en train de dire, trouve la sagesse et marche-y. Sois au-dessus de la mêlée. Fais-toi remarquer par mener une vie de sagesse. Et c'est là où il dit au verset 23, garde ton cœur, chapitre 4. Verset 24, il dit, écarte-toi de la bouche de fausseté. Verset 25, que tes yeux regardent en face. Verset 26, que tes pieds soient menés sur des voies droites. Alors, il y a des conseils. Sois au-dessus de la mêlée. Fais-toi remarquer pour être au-dessus de la mêlée. Ne suis pas le courant de ce monde. Ne suis pas, donc, le contexte dans lequel tu te trouves. Sois au-dessus de la mêlée. Le verset clé du chapitre 4, ça c'est le 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est mis en garde au verset 14. Attention avec qui tu t'associes. Attention avec qui tu traînes. On va le lire. Proverbes 4 et verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite là, n'y passe point, détourne le temps et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Par contre, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Chapitre 5. Encore, sois attentif. Prête l'oreille. Réfléchis. Maintenant, prends position contre la séduction du péché. Là, ici, il y a vraiment, il y a les hommes, pardon, les voies droites qui mènent vers Dieu, et il y a les voies de la séduction, les voies de la mort qui mènent vers l'enfer. Il dit qu'il y a deux chemins, un chemin étroit et un chemin large. Le chemin étroit, il y a très peu qui s'y trouvent. Le chemin large, il y en a beaucoup, parce qu'on est tous comme des brebis égarés, chacun suivant sa propre. Et s'il n'y a pas l'avertissement de la parole de Dieu pour nous dire « Il y a un chemin de droiture, marche-y, on irait avec les brebis dans la voie large. » Et on se trouverait dans un enfer éternel. Sois attentif, prête l'oreille, réfléchis. Et ça me fait penser tout de suite au chapitre 5 et verset 21 nous dit « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sens. » Référence au roi de Chroniques chapitre 16 et verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière, cherchant ceux qui ont un cœur droit devant lui, afin de se montrer fort à leur égard, afin de manifester sa faveur à leur égard. On serait insensé et ingrat de ne pas demander la faveur de Dieu. Ses yeux parcourent la terre entière, afin de se montrer fort et soutenir ceux qui ont un cœur droit. Sois attentif. Chapitre 6. Ne te laisse pas aller. Ne tombe pas dans la lassitude, dans la paresse. Nous voyons donc dans les premiers versets, il y a des mises en garde. Verset 3, fils, donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va poster le toit, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, même à la fin des vacances. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Et va vers la fourmi. Considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça me fait penser tout de suite à Proverbes chapitre 31, la femme vertueuse. Ah, elle a considéré la fourmi, elle. Parce que si vous lisez, donc on ne va pas lire ça aujourd'hui, mais si vous lisez donc Proverbes chapitre 31, vous verrez qu'elle va préparer donc sa famille pour l'avenir, pour l'hiver. Elle va vraiment, donc elle ne va pas du tout manger le pain de la paresse. Hein? Même si des fois ça serait délicieux, n'est-ce pas, le pain de la paresse. Mais non, elle ne va pas manger le pain de la paresse. Pourquoi? Parce que elle va considérer que ce n'est pas la paresse qui va nous faire avancer, c'est donc regarder Dieu, c'est regarder aussi son exemple de zèle, et nous dire, attention, parce que la paresse, c'est égal à pauvreté. Verset 11 nous dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Donc ne te laisse pas aller, ne tombe pas dans la lassitude. Considère la fourmi. Ne te laisse pas surprendre par les choses. Prépare-toi. Sois avisé. Sois averti. Mais surtout, ne te laisse pas aller. Aussi, au chapitre 6, il y a 7 choses que Dieu ne peut pas accepter, ne peut pas supporter. Les hurotins, verset 17, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et aussi celui qui excite de querelles entre frères. Dieu ne peut pas accepter, on ne peut pas cohabiter avec de telles pratiques. Cette chose que Dieu est, que Dieu a en horreur. Alors c'est dans notre relation, les uns avec les autres. Jiotin, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui savent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Chapitre 7. Mise en garde contre la femme adultère. La séduction du péché sexuel est une très très forte mise en garde au chapitre 7. Il s'agit, si vous lisez le chapitre 7, immédiatement, à partir du verset 5, il te dit la sagesse, appelle l'intelligence à ton âme, à ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, étrangère à toi, étrangère à ton cœur. Donc c'est un jeune homme qui va donc se faire séduire par une femme adultère. Et au verset 23, nous voyons que le prix qu'il va payer à la fin de sa séduction, c'est qu'il va perdre. C'est ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au fil de sa vie. Attention, on ne va pas trop commenter le chapitre 7, il s'agit simplement de la mise en garde contre la femme adultère. Au chapitre 8, nous avons la description du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la sagesse. Dans la Bible Scofield, il est dit que la sagesse est plus qu'une personnification d'un attribut de Dieu, ou la volonté de Dieu, la meilleure pour l'homme. Elle est la description de la personne de Jésus. Elle décrit aussi la relation qu'il avait avec le Père. Et c'est pour ça qu'au verset 35, il dit, « Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Si nous voyons donc la sagesse ne crie-t-elle pas, elle élève sa voix, et il y a une description exactement de comment est la sagesse. Verset 12, moi la sagesse, je suis pour demeure le discernement. Je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Verset 11, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 6, écoutez, car j'ai des grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Verset 32, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est le verset clé du chapitre 8. Au verset 30, ça parle un petit peu de la relation que Jésus avait avec le Père. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous savez, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La relation de Jésus avec le Père, comme lui étant sagesse, c'est lui qui est notre exemple. Regardez de près le chapitre 8 et voyez la description de ce qui est Jésus-Christ. Chapitre 9. Sommes-nous conscients de notre simplicité, de nos faiblesses, de notre manque de compréhension? Alors sommes-nous des candidats pour recevoir la sagesse céleste que Dieu promet? Où est-ce qu'il promet la sagesse? Dans quel chapitre? Celui qui manque de sagesse, demandez-la avec foi. Quel livre? Jacques, chapitre 1. Regardons rapidement la sagesse des dieux. Jacques chapitre 1. Déjà, il nous dit qu'il faut se réjouir dans les épreuves. On va de la sagesse, hein, pour savoir comment se réjouir dans les épreuves. Hein. Mais faire regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je m'arrête là. Quelles sont les sagesses? Jacques chapitre 3, verset 13. La sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais les terrestres, charnels et diaboliques. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Par contre, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, pas d'hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Si je suis conscient de mes faiblesses, si je suis conscient de ma simplicité, si je suis conscient parfois de mon manque de compréhension, alors je suis un candidat pour recevoir la sagesse céleste que Dieu promet au ciel. Chapitre 9 et verset 10, verset clé, la crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Vous êtes invité à marquer chaque fois que vous trouvez le mot crainte dans le livre de Proverbes. Chaque fois que vous trouvez la phrase, la crainte de l'Éternel. Il y a des choses très intéressantes autour du contexte dans lequel nous trouvons ces versets. Maintenant, revenons au chapitre 10. Proverbes chapitre 10. Il y a deux vérités qui se confrontent. La méchanceté et la folie. La droiture et encore, la sagesse. Je vous ai dit que le livre du chapitre 10 va commencer une série de contrastes. Alors, ce que moi j'ai fait, donc j'ai noté donc, les contrastes d'une manière et, les choses positives d'une manière et les choses négatives, le revers de la monnaie, d'une autre manière. On peut faire avec deux couleurs fluo, par exemple. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de noter dans votre Bible. Mais par exemple, on voit au verset 5, du chapitre 10, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils différent. Contraste. Verset 7, la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants est en pourriture. Verset 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Verset 16, l'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Et tout de suite, au verset 17, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Verset 12, qu'on passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Lui reste debout. Verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Verset 32, les lèvres du juste connaissent la grâce, mais la bouche des méchants, la perversité. Alors, un verset clé,
Au chapitre 10, c'est le verset 17. J'ai lu tout à l'heure, celui qui se souvient de la correction dans le chemin. Ne cherchons pas à plaire à trop de monde. On parlait jeudi soir avec les frères qui étaient à la de prière, et on disait, parce qu'il y a un verset qu'on a lu, on ne peut pas avoir trop d'amis, parce que si on a trop d'amis, on court à notre perte. Mais il y a un ami qui est tel. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on court à notre perte? Parce que quelqu'un qui a trop d'amis et qui veut plaire à tous ses amis, à un moment donné, il va commencer à faire des compromis pour être accepté par l'un et par l'autre. Combien de jeunes avec qui j'ai parlé, et ils me disaient, lorsque je travaillais beaucoup avec des drogués, donc au Mexique, et donc ils disaient, mais tout a commencé parce que mes amis m'ont poussé. Mes amis à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui sentaient la colle néoprène. Vous savez, dans les grandes. Il y avait des grandes, donc, espèces de cavernes, donc dans la ville de Mexico, et on allait là-dedans, et on allait chercher les jeunes qui étaient vraiment, vraiment dans la pénombre, et ils sentaient la colle de néoprène. Depuis un an, depuis 2 ans. Vous imaginez comment ça bousillait leur cerveau. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qu'on a sortis de là. Ils sont pasteurs aujourd'hui. Dieu les a complètement réformés, il a complètement donc reconstruit aussi leurs neurones, parce qu'ils avaient vraiment, donc. Ils étaient dans un contexte dans lequel ils étaient perdus. Mais alors, c'est sûr et certain que quand on commence à s'aimer la parole de Dieu, il y a une transformation, il y a une réforme qui va avoir lieu dans les cœurs et dans les vies. Au chapitre 10, il y a un autre verset qui m'a frappé, le verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les L'amour couvre toutes les fautes. L'amour de Dieu. Le calvaire rend possible la couverture de nos péchés. Et pas seulement la couverture. Il dit qu'ils effacent à jamais nos péchés. L'amour parfait couvre toutes les fautes. Il y a un autre verset qui dit ne rappelle pas la méchanceté de la personne. Ne ramène pas constamment dans ses actes de méchanceté. Donnez une chance. Peut-être choisis de couvrir ses fautes. Ce n'est pas des compromis, mais de couvrir ses fautes. Ne parle pas publiquement de ses fautes, etc. Mais amène-le à une vérité, amène-le à une paix. Et donne-lui l'espace de changer. C'est très intéressant. Quand on étudie dans la parole de Dieu, comment Dieu avait une telle patience avec les siens. Une telle patience avec ses serviteurs, une telle patience avec les disciples, une telle patience avec les apôtres, une telle patience avec les prophètes. Nous voyons comment Dieu croyait à ce potentiel. C'est intéressant. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Alors, chapitre 11. Il y a un plan de Dieu de nous faire avancer, de nous faire grandir, de nous faire prospérer. Tout de suite, ça nous fait penser au chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Alors, tes greniers seront remplis. Immédiatement, oui, Dieu veut qu'on avance, Dieu veut qu'on grandisse, Dieu veut qu'on prospère, mais il faut suivre son plan. Comment est-ce que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu? Au travers des biens que Dieu met entre nos mains. Et vous savez, quand Dieu met des biens entre nos mains, il ne faut pas fermer la main en disant « c'est à moi ». Si les mains sont ouvertes, il peut faire passer ses biens, il peut prendre, il peut déposer, il peut faire ce qu'il veut avec. Moi, je ne suis qu'un canal qu'il utilise. Mais si je ferme mes mains, la Bible dit en Proverbe, ne retiens pas ce que tu as dans tes mains, car avec le temps, tes mains se vident. Vous savez, combien de fois, nous, on pense, voilà, ça c'est à moi. Je ne sais pas. Cet appel est à moi. Non, cet appel est à Dieu. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, c'est pour servir aux autres. Le plan de Dieu de nous faire avancer, grandir et prospérer. Et à la fin du chapitre 11, il y a ce verset puissant. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Celui qui gagne des âmes est sage aux yeux de Dieu.
Est-ce que nous nous attardons à prier et dire, Seigneur, je veux m'emparer des âmes. Je veux gagner des personnes qui ne te connaissent pas. Le désir de mon cœur, c'est de porter du fruit pour ta gloire. C'est à notre fruit qu'on est connu, la Bible dit. Il y a le fruit de la justice, le fruit de la repentance, mais aussi ici, aussi bien fruit. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Ça parle d'une compassion qu'on doit avoir pour prier afin que des âmes viennent à Christ, afin que des cœurs soient transformés. Le plan de Dieu pour nous faire avancer, grandir et prospérer. Chapitre 12. Prudence, justice, droiture. Mais attention, tout cela se révèle par nos lèvres, par les paroles qui sortent de notre bouche. Je me rappelle, on nous avait enseigné sur Jacques chapitre 3, à l'époque, vous savez, ce passage qui dit que la langue peut être très très dangereuse. La langue, c'est un tout petit instrument, mais il peut allumer un grand feu. Et alors, à un moment donné, donc, le professeur nous a dit, allez chez vous. Prenez votre magnéto, on avait tous un petit magnéto dans nos cassettes, et parlez. Parlez. Et après, écoutez ce que vous dites. Et autrement, on a tous fait l'exercice, c'est-à-dire de prendre des notes, et on était atterrés, parce qu'on s'est écouté, moi, c'était mon plan, ce que moi je veux, etc. C'était incroyable. Alors on sait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, maintenant, Luc chapitre 6, 45, le dit. Il faut faire très attention par rapport à ce qu'on dit. Tout ça, cette prudence, cette justice, cette voiture va être révélée par nos lèvres. Comme au niveau de cœur. Ça va sortir. Que ce soit favorablement les paroles de ma bouche, le psaume 19, et les sentiments de mon cœur, Seigneur, reçois-les favorablement. Seigneur, je veux que par mes lèvres, par ma bouche, je puisse conseiller la paix. Je puisse réjouir ceux qui m'entendent. Verset 25, chapitre 20, chapitre 12, pardon. Et il dit que le bon trésor va faire disparaître ce mauvais trésor. Mais lorsqu'on parle, on va révéler ce que nous avons dans le cœur. Luc chapitre 6 et verset 45. Une référence avant moi. Luc 6 et verset 45. On va lire la partie du verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sous des épines, et on ne vendange pas des raisins sous des raisins. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Nous avons entendu l'avertissement, garde ton cœur au-dessus de toute autre chose, car d'elle émane et d'elle vient les sources de la vie. Est-ce que nous conseillons la paix avec nos paroles? Est-ce que nos paroles réjouissent ceux qui nous entendent? Ça nous fait penser aussi à Éphésiens chapitre 4. Référence à l'envoi. Éphésiens chapitre 4 et vers la fin donc, du chapitre. Regardez ce qu'il dit. C'est très intéressant. Quand il parle de la transformation qui a lieu dans notre vie, dans notre cœur, donc à partir du verset 23, nous sommes encouragés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi la transformation, renoncer au mensonge, et désormais, chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Soyez le conseil. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, si vous devez ouvrir la bouche, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, on voit dans le livre de Proverbes comment Dieu peut se servir de tous les membres de notre corps et combien de fois on trouve le mot parole, bouche, lèvres, langue. C'est tellement, tellement important qu'on veille sur les paroles. Revenons au chapitre 13. Il y a des conseils pour les enfants.
écoute l'instruction de ton père. Ça fait penser tout de suite au psaume 32, verset 8, où Dieu dit à David, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller. On serait insensé de ne pas nous soumettre au Dieu, au Père de lumière. Écoute l'instruction de ton Père. Instruire, ça veut dire je vais te montrer comment faire. Je ne vais pas te donner une parole et faire autrement. Et c'est pour ça que nous, en tant que parents, au sein de l'Église, au sein d'un lieu de culte, nous voulons que nos enfants suivent les voies de Dieu. Nous voulons que les enfants marchent avec nous. Nous voulons que les enfants soient fidèles. Nous voulons que les enfants aient le regard fixé sur Jésus-Christ. Mais c'est à l'exemple des parents que les enfants vont voir. Ils vont être instruits. Écoute l'instruction de ton père. Par le fruit de la bouche, on dit du bien, mais ce qui désire le perfide, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Un fils sage, écoute. Écoute. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est 10 du chapitre 13. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Quelle est l'attitude envers l'enfant? Celui qui l'aime, vers la fin du chapitre, cherche à le corriger. Rappelez-vous qu'en Hébreux chapitre 12, il dit, nos parents nous châtiaient et ils le trouvaient bon. Ils le trouvaient bon de nous châtier. Pourquoi? Parce que ça nous apprenait l'obéissance. Et bien sûr, il y a ce verset qui dit que Jésus a pris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Mais moi, je l'applique aussi aux enfants. Rappelle-toi la dernière fois que tu as eu la correction et apprends ta leçon. Apprendre l'obéissance par les choses que tu as souffertes et commence vraiment à réformer ta vie, réformer tes paroles, réformer tes actions, tes attitudes. Et tu seras un homme dont tes parents seront fiers. La première de reprise, on trouve ici qu'il faut vraiment donc suivre les instructions de nos parents. Chapitre 14. Être un témoin fidèle. Véridique. Ne pas porter de faux témoignages. Chapitre 13, verset 17, pardon, chapitre 13, verset 17, nous disait déjà, un messager fidèle apporte la guérison. Il apporte la guérison. Chapitre 14, verset 5, un témoin fidèle ne ment pas. Et un faux témoin dit des mensonges. Verset 25, du chapitre 14, le témoin véridique délivre des âmes. Son peur du mensonge. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Être un témoin fidèle, véridique, ne pas porter de faux témoignages. Vous savez, ils disent que la personne qui dit toujours la vérité n'a pas besoin de se répéter. C'est vrai? C'est toujours la même chose. Si tu demandes donc à quelqu'un, c'est toujours le même rapport, c'est toujours la même chose. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Chapitre 14, verset 27. Alors, si être un témoin fidèle, véridique, ne pas porter un faux témoignage, être un messager fidèle et apporter la guérison et pour le bien de ceux qui nous entourent, alors, marchons-y. Marchons-y, selon cette parole. Allons au chapitre 15. Le chapitre 15 nous dit qu'une réponse douce, calme. 15 et verset 18, vous entendez aussi, un homme violent excite de querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Comment réagissons-nous quand on rentre dans un contexte où il y a de la colère exprimée? Comment réagissons-nous quand on est dans un contexte dans lequel la personne est en train d'écraser la personne devant eux? Alors, comment est-ce que nous, on réagit? Dans notre foyer, comment est-ce qu'on réagit? Une réponse douce, calme la. Celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Par réponse douce, une langue sage, une langue douce, une langue qui exhorte et une langue qui réprimande avec amour. On n'aime pas la réprimande, mais si c'est fait avec amour, ça passe. Ça passe, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants à la colère. Parce que combien de fois, en tant que parent, on va discipliner nos enfants, mais dans la colère, c'est pas juste. Moi, je sais que des fois, quand j'allais discipliner un de nos 7 enfants, je leur disais, tu m'entends? Et je me mettais à côté, je disais, Seigneur, apaise mon cœur. Parce que moi, je ne veux pas me déchaîner contre l'enfant. Je ne veux pas lui faire comprendre que c'est moi qui a le dernier mot. Ce n'est pas du tout ça. Il faut que j'amène mon enfant à comprendre que la discipline sert à réformer ses pensées, réformer ses actes. Donc, la langue sage, la langue douce, qu'on trouve ici, la langue qui exhorte, la langue qui réprimande avec amour. Chapitre 15 et verset 8, quelque chose qui m'a frappé. La prière de son droit, lui, est agréable. Alors, si on veille sur notre langue, si on veille sur notre bouche, si on veille sur notre manière de répondre, quand on prie, il aime et la prière de son droit lui est agréable. Vous pouvez penser tout de suite à quel verset? Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tout est lié. Et en plus, 15, 29, le proverbe, nous dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Combien de justes ici aujourd'hui?
Oui.
Amen. Oui. Nous sommes justifiés en Christ. Oui. Je n'ai pas dit combien de parfaits. Hein. Oui. Les parfaits, c'est au cimetière. Hein. Au cimetière, les gens ne sont pas plus. Personne ne pêche. Hein. Personne ne pêche. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Alors nous sommes justes. Il écoute la prière des justes. Moi, je dis à quelqu'un, tu peux prier pour moi, mais est-ce que tu es juste? Parce que je veux que ta prière soit efficace. Alors, aussi en 15, nous voyons cette expression « mieux vaut ». On commence avec plusieurs fois, qu'on va trouver dans le livre de Proverbes, « mieux vaut ceci que cela ». Il y a des choses qui sont meilleures. Par exemple, 15-17 nous dit « mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour ». Qu'un bœuf engraissé, s'il a une larme. Mieux vaut. C'est meilleur que. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a du meilleur? Lisez le livre de Noé. Regardez pourquoi il fallait une alliance meilleure. Pourquoi il fallait un sacrifice, un meilleur sacrifice. Pourquoi il fallait donc un sauveur. Un sauveur. Le meilleur. Mieux vaut. Alors, vous allez lire les mieux vaut, vous allez voir quels sont les contrastes qui vous disent des choses très intéressantes à noter. Ça parle des hommes, ça parle des femmes, ça parle des enfants. Mieux vaut ceci que cela. Remarquez. Chapitre 7. Attention à l'orgueil. Attention à la prétention. Parce qu'on peut être tellement prétentieux qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 1. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Alors, attention à l'orgueil, la prétention. Verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. On trouve au moins à 4-5 reprises cette expression quelque chose précède, quelque chose précède. Lisez-le. Retenez-le. Laisse-toi attirer par ce qui est humble encore. Pas de prétention. Fais confiance au Seigneur. Quels sont tes projets? Quelles sont tes voies? Verset 9, le cœur de l'homme mène sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige. Alors, vous savez, les conseils qui sont là, ce ne sont pas des suggestions. C'est vraiment donc, ce n'est pas des options non plus. Mais non, notre vie étant tellement proche de la sagesse, proche de Dieu, on se laisse conduire dans tous nos pas. On se laisse instruire. Et c'est comme cela que nous allons mener une vie qui lui est agréable. Et cette vie qui lui est agréable, c'est une vie dans l'humilité. C'est une vie éprouvée. C'est une vie dans laquelle nous allons expérimenter quelque chose de la part du Seigneur. Et quand nous allons parler de ce que nous vivons avec Dieu, chapitre 16 et le verset 24, des paroles agréables sont un rayon de miel. Vous avez mangé le rayon de miel? Bon. Délicieux. Il y a une triple bénédiction. C'est comme un rayon de miel elles sont douces pour l'âme, elles sont salutaires pour le corps.
Vous savez, il fut un temps quand les gens parlaient aux arbres, parlaient aux plantes. Et ils disaient, dans des documentaires, quand ils parlaient aux plantes, les plantes s'éteignaient correctement, les plantes grandissaient bien, etc. J'en sais rien. Mais je sais que par mes paroles, je vais donner envie aux autres d'écouter le Seigneur que moi j'ai goûté. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme, elles sont salutaires pour le corps. Vous avez pensé à quel verset ? Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste à toujours. Verset 10 du chapitre 19 de Psaume. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'enfants, et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule dans les yeux. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Résultat, verset 10-15. Reçois ta parole de mon épargne de ma bouche. Sentiment de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Tout cela va se révéler par l'expression. Alors, Seigneur, je dépends de toi. Que tes projets s'accomplissent en ma vie. Je ne veux pas faire à ma tête. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. Instruis-moi. Je ne veux pas être orgueilleux en pensant que moi je peux par moi-même. Et c'est pour ça qu'il dit au chapitre 3, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur tes propres acquis. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel, dépends de lui jour après jour. Le chapitre 17, les principes relationnels. Qui sont tes amis? Alors j'ai trouvé plusieurs versets, je voulais dire, au verset 2 du chapitre 17, un serviteur prudent. Tes amis, celui qui est la gloire de ses enfants. Verset 7, celui qui a des paroles distinguées. Verset 9, celui qui couvre une faute. Verset 9, celui qui cherche l'amour et a manifesté de l'amour autour de lui. Verset 10, est-ce que tes amis sont ceux qui font des réprimandes avec intelligence et tact? Verset 14, celui qui se retire d'une dispute, qui cherche à s'éloigner du contexte. Verset 17, celui qui aime en tout temps, malgré, point de suspension. Verset 17, celui qui se montre un frère en tout temps. Verset 27, celui qui savait tenir ses paroles. Verset 27, est-ce que tes amis sont ceux qui ont un esprit calme? Avec qui sommes-nous entourés? Connaissons-nous les personnes qui nous entourent? Parce que les personnes qui nous entourent vont avoir une influence sur nous. Sommes-nous prêts à avoir une influence auprès des personnes qui sont dans notre entourage? Et aussi au sein de l'église locale, c'est tellement important. Vous savez, les principes les uns des autres. Exhortez-vous les uns des autres. Aimez-vous les uns des autres. Servez-vous les uns des autres. Rendez-vous service les uns des autres. Conseillez-vous les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Mais dans les principes relationnels, qui sont nos véritables amis? Alors ça, c'est à réfléchir. La personne avec laquelle nous passons du temps. En quoi ils nous font du bien? En quoi nous leur faisons du bien? En quoi ils réfléchissent selon Dieu? Il y a un verset qui parlait d'un prophète qui disait pendant les jours d'Uzias, nous avons cherché l'Éternel. Pendant les jours d'un tel, pendant les jours d'une telle, en écoutant les prières d'un tel, d'une telle, en voyant l'exemple de vie d'un tel, d'une telle, nous avons cherché l'Éternel. Il y avait quelque chose qui nous poussait à nous mettre à genoux, à chercher la face de Dieu. Parce que la personne qui était dans notre entourage nous donnait un exemple, nous poussait à vouloir être comme Christ. Les principes relationnels que vous avez trouvés au chapitre 17, vous pouvez les voir, vous pouvez les étudier, et c'est très intéressant. Alors, quelle sorte de personnes sommes-nous? Et avec quelle sorte de personnes nous entourons-nous? Chapitre 18. Ah, il y a un verset clé. Le nom de l'Éternel est
une tour forte, le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Il se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Pour ceux qui se rappellent. Il se trouve en sûreté. Il se trouve en sécurité. Il est inébranlable. Pourquoi? Parce que celui qui se trouve en Dieu, celui qui se réfugie en lui, il est sûr. Amen. Il est sûr de ses pas. Il est sûr de ses pas. Mais chapitre 18 aussi, il va nous avertir concernant encore la langue. Ah, cette langue. Ah, ses lèvres. Verset 7, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, mais descendent jusqu'au fond des entrailles. La langue. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Combien de fois il y a des personnes qui se disputent dans la rue et puis là il y a quelqu'un qui dit un mot et là il y a un coup. Fait un coup parce que le mot qui a été prononcé c'était trop. Nous sommes de ceux qui conseillent la paix, de ceux qui fabriquent la paix. Par nos paroles. Par nos paroles. Je rappelle un jour, on avait donc un plombier qui était à côté, Moïse. Et un jour, je le vois passer, mais avec une clé en place. Alors j'entendais qu'il s'aclaxonnait et tout. Il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans. Et je sors, et j'ouvre la porte, et je me tiens à la porte. Et apparemment, il y a quelqu'un qui avait touché sa voiture, et bon, lui, il était prêt à se faire ce qu'il allait faire. Et tout d'un coup, il se retourne. Moi, j'ai crié au moteur. Il se retourne, je lui dis calmez-vous. Bon, d'accord, il a fait demi-tour, il ne pouvait pas toucher. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire, mais c'est sûr et certain que nos paroles peuvent provoquer jusqu'au coup. Donc, ici, la langue, de la même langue, Jacques chapitre 3. Sont de l'eau salée et l'eau douce. Verset 4 nous dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un poron qui gèle. Mais le verset 20 et verset 21 du chapitre 18 nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque lève en mangeant. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus disait la même chose dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et le verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Quand il parlait aux pharisiens, restez vipères, comment pouvez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la vie. Chapitre 19. Celui qui acquiert du sens aime son âme. C'est encore. Garde ton cœur dessus de toutes choses, car de lui émane les sources de la vie. Le verset 8 nous dit, celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. La voiture doit être désirée. Plus que la richesse de ce monde. Comment gérer nos biens? Garder la bonne attitude, veiller sur notre âme, être intelligent selon Dieu, marcher selon son chemin de droiture. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. On doit aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Ça va un petit peu dans le même sens. Le verset 11 nous dit, L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. À plusieurs reprises, on trouve lent à la colère. Au chapitre 1er du livre de Jacques, il dit « Ne soyons pas trop à parler, soyons lents à la colère. » Voyons donc le conseil qui est là. Mais il dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Et il met sa gloire à oublier les offenses. Tendons-nous à oublier les offenses. Et ce qui est déjà pardonné. En parlant parfois avec des couples. Vous savez, ce qui n'est pas pardonné va s'accumuler dans la banque des mémoires, la banque des souvenirs. Et moi, je dis, mais si c'est pardonné, c'est terminé. On ne revient plus. Oui, mais elle a fait la même chose que la dernière fois. Il a fait la même chose que la dernière fois. Ne, on ne revient plus. C'est pardonné, c'est oublié. Bien sûr, ils disent que pardonner, c'est humain, et oublier, c'est divin. Bon, c'est vrai, Dieu oublie, mais sommes-nous prêts à oublier les offenses? Sommes-nous prêts à oublier ce qui était déjà pardonné? Ou est-ce que nous avons choisi d'ignorer certaines offenses par amour, ne pas les faire remarquer et dire « Je vais prier pour toi, Dieu va t'aider et j'espère qu'à l'avenir, ça va venir. » Est-ce qu'on est obligé de chaque fois parler d'une offense, parler donc de quelque chose de négatif? Non. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alors, Jésus disait en Jean chapitre 8, lorsqu'il était face à la femme adulte, voyait-il Jésus dans cette femme adultère? Il voyait une femme à qui il allait dire « Je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. » Vous vous rappelez ce qu'il a dit aux hommes qu'il avait traînés devant lui? Que celui de vous qui êtes sans péché jette le premier. C'est vrai que des fois, quand on accuse quelqu'un, ma mère disait, tu pointes ton doigt et tu as trois doigts qui te pointent à toi. Attention. Attention, toi qui juges. Que tu ne sois pas pris dans le même piège. Mais c'est intéressant de voir Jésus, il voyait une femme parmi nous. Celui qui met une gloire à oublier les offenses. Verset 23 du chapitre 23, au chapitre 19, pardon, il dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie. » Mais dans l'étude du livre de Proverbes, nous voyons que la crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel donne satisfaction contre notre vie. La crainte de l'Éternel nous préserve du mal. Une triple bénédiction. Sommes-nous en train de jouir de la vie, de la vraie vie en Christ? Chapitre 20. Il y a deux versets. Verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je pense ensuite à Joseph. Joseph, un homme en qui il y avait l'esprit. David, un homme selon le cœur de Dieu. Après, avait été pardonné. Après qu'il avait été meurtrier, adultère, Dieu donne un témoignage de lui et il dit un homme selon le cœur de Dieu. Un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants. Après lui. Le verset 11 nous parle aussi de l'éducation des enfants. L'enfant laisse déjà voir par cette action si sa conduite sera pure. Verset 22, verset 6 nous dit tout de suite, elle suit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, un homme fidèle commence à l'enfance. Une femme fidèle commence dès son enfance. Un homme fidèle qui le trouvera? Encore l'oreille qui entend la voix de Dieu. Les yeux qui contemplent chapitre 9, verset 29, du chapitre 20, la force et la gloire des jeunes gens et le cheveu blanc sont l'ornement des vieillards. La beauté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la beauté. Quand on lit le livre de Proverbes, je vous encourage à noter, je vous encourage à voir ces versets, à voir ces thèmes et à vous laisser instruire par cette parole. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'agir selon la sagesse de Dieu. Vous savez, on peut arrêter un peu ou un peu l'enflammer. Par nos paroles, par nos attitudes. Nous qui sommes censés vivre selon sa sagesse, alors nous sommes un espoir. Nous te remercions, Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous parles d'une manière précise. Et chacun de nous, Seigneur, nous sommes appelés à répondre à ton appel, à répondre, Seigneur, à ta révélation. Nous voulons, Seigneur, vraiment que ton nom soit honoré et glorifié au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, tous, que l'on soit sage pour le salut, et sage pour savoir comment mener notre vie une fois.